Vous écoutez
RMC.
Lille-Rennes, donc la victoire ce soir dans ce match à l'Europe qui a tenu toutes ses promesses. On en parlait tout à l'heure rapidement. Il y a eu deux périodes quand même assez distinctes, les gars. La première pour les Rennais qui menaient 1-0 à la pause, hein, qui s'incline finalement 3-1, et puis la deuxième largement à l'avantage des Lillois. La réaction est assez incroyable et au final on retiendra de ce match, Lio et Kevin, la domination lilloise. Pourtant ils partaient de loin en première période quand même.
Oui, c'est vrai qu'il partait de très loin. Après, quand tu, après quelques secondes de jeu, t'as ton jeune défenseur qui rate son contrôle sur une passe d'André Gomes un peu puissante. Et derrière, ça fait l'ouverture du score pour les Rennais. Mais derrière, petit à petit, ils ont gardé leur principe de jeu. Ils ont continué à repartir de derrière, à prendre des risques. Et finalement, c'est en deuxième mi-temps qu'ils ont réussi à profiter de leur travail parce que les Rennais ont un peu baissé d'intensité. Et là, les Lillois, eux, ont réussi à accélérer. Et par les changements, ils ont même fait la différence en fin de match. Donc bravo, parce que c'est une équipe, moi, qui me plaît depuis le début. On voit aussi de belles images que moi j'aime beaucoup, avec l'entraîneur qui va fêter avec ses joueurs, alors sans traverser le terrain, mais on voit les joueurs qui viennent vers le banc, on voit une cohésion et surtout un soulagement pour cette équipe. Et donc bravo à Fonseca, bravo à ces Lillois, parce que c'est mérité.
Et au classement, c'était un match important, hein. Rennes 5e avec 40 points, Lille 6e avec 38 points. Désormais, c'était un match à 6 points pour cette 5e place qualificative pour la Coupe d'Europe. À la mi-temps, il y avait 8 points d'écart, mais voilà, ce soir à la fin du match,
ça relance tout.
Il y en a que deux. Dimitri, supporter du LOSC, qui est avec nous au 32-16. Salut Dimitri.
Bonsoir messieurs, bonsoir Kevin.
Oh, il est
bonsoir.
Content Dimitri.
Ouais. On dit
ma voix, je pense. Ouais, on dit parfois que le sourire s'entend dans la voix. Effectivement, on entend ton sourire. J'imagine qu'à la mi-temps, t'avais pas la même voix, Dimitri.
Non, j'avais pas la même voix. Non, je parlais pas trop. J'avais la tête dans le seau. En plus, ils étaient à 8 points, donc je disais que bon là, c'était fini. C'est finito. Et là, c'est vrai que je revois le but d'André Gomes devant. Là, je suis fou, là. Je suis fou. Faut plus jamais me dire que la Ligue 1, on s'ennuie devant la Ligue 1, parce que c'est pas vrai. Voilà, ouais. C'est pas vrai.
Est-ce que ce match peut être un tournant pour le LOSC? On le dit depuis le début de la saison. Kevin l'a souvent rappelé pendant le direct. Une équipe qui joue bien au ballon, qui est l'une des équipes qui joue le mieux, probablement, mais gros problème d'efficacité devant et derrière, d'ailleurs, également. Est-ce que tu penses que ce soir, cette victoire à Rennes, ça peut être enfin le tournant et finalement enfin concrétiser ce qu'on voit dans le jeu par des buts et des points, au final?
Mais c'est possible, mais après on se disait aussi la même chose quand on a gagné 5-1 contre 3. On se disait la même chose, finalement tu fais 0-0 contre Clermont, puis tu perds à Nice aussi, avec toujours les mêmes problèmes. On a eu les mêmes problèmes en première mi-temps, là ça a tourné en notre faveur sur la deuxième mi-temps. Maintenant j'espère que ça va tourner encore en notre faveur sur les prochains matchs, parce qu'en soi il reste encore beaucoup beaucoup de matchs. On a l'impression qu'il en reste pas beaucoup parce qu'il y a eu cette Coupe du Monde, mais en soi il en reste beaucoup. Donc tout est possible encore, on se rapproche de Rennes, de Monaco, je pense qu'on va se battre pour l'Europa League et la Conference League, je pense pas plus, parce que je pense que les trois de devant, ils ont verrouillé le podium, après on sait jamais, mais j'espère, mais je vais pas dire que c'est catégorique, parce que comme je t'ai dit, voilà, quand contre trois, on disait tous la même chose, et finalement on a eu les mêmes problèmes après, donc voilà, on va savourer, et on verra sur le prochain match. Déjà on joue contre Lyon, mercredi en coupe je crois. Donc on verra ça sur ce match-là. Je pense qu'il va faire un petit peu tourner, mais pas trop, puisque la coupe c'est aussi un des chiffres pour le coach.
Le 8e de finale mercredi à 18h15, et puis t'auras un mois de février important, hein, puisque après tu reçois Strasbourg, et puis il y a le déplacement au Paris Saint-Germain le 19 février dans 15 jours. Ouais, Lionel.
Ouais, je voulais te poser une petite question, juste savoir, quand on est supporter comme ça lillois, est-ce que il y a des très bons souvenirs de l'époque Galtier qui reviennent à la fin d'un match comme ça et qui vous laisse espérer en oubliant le début de saison, mais là, juste là à l'instant T, quand tu finis ce match là, est-ce que tu dis ah, on est en train de revivre la même fin de saison qu'on a pu vivre avec Galtier, ou c'est encore loin?
C'est une bonne question que tu me poses, parce que je sais pas si vous vous rappelez, en fait, la saison du Covid, peut-être que Kevin, il va s'en rappeler, parce que je me rappelle qu'à cette époque-là, il disait attention à la Ligue qui remonte. L'époque du Covid, on remonte petit à petit, on grappille des points sur Marseille, qui était deuxième, qui était en train de dégringoler avec Villas-Boas. On remontait, on était à 4 points, et là, bim, le Covid. Ça ressemble un petit peu à ça. On commençait à remonter un petit peu comme ça. Maintenant, j'espère qu'on va remonter, qu'il n'y aura pas de Covid.
Ouais.
Mais c'est vrai, c'est une bonne question, Lionel. C'est vrai, ça ressemble un petit peu. Après, dans le jeu, il n'y a rien à voir, mais oui, en termes d'émotion, c'est la même chose. Ouais.
Oui, je parle des émotions, hein, supporters.
Sur ce jeu, qu'est-ce qui a changé à la pause, les gars? Parce que en première période, vraiment, c'était le LOSC, c'était syndrome vraiment du LOSC de début de saison, avec des occasions
grosses, ils sont plus lâchés, je trouve.
Ce qui a changé, c'est que tout simplement, ils ont réussi à être enfin décisifs dans les 20 derniers mètres avec un Zegrova qui, après avoir raté une énième occasion avec ce lob tenté sur Stéphane Mandanda, derrière, il y a cette prise de risque sur le côté gauche et de la présence dans la surface, ce geste génial aussi d'André Gomes pour cette talonnade qui dévie juste ce qu'il faut pour Zegrova qui se pose pas de questions et qui finit. Et ensuite, voilà, ça a été le déclic pour cette équipe qui a bien vu que son adversaire était dans un temps faible et avait du mal à remettre de l'intensité. Et donc, les Lillois en ont profité pour aussi sous l'impulsion des changements et notamment d'un bon Rémi Cabella pour bien finir ce match. Mais le football, ça joue pas à grand chose. Il y a cette imprévisibilité que tu retrouves dans la vie. D'ailleurs, j'ai lu ça cette semaine et je suis complètement d'accord. Et encore une fois, dans ce match, ça a été des petits détails qui ont fait switcher la rencontre.
Excuse-moi, vous êtes Kevin Diaz ou vous êtes Thibault Leplat?
On essaye.
Et Dimitri, dans la remontée que tu espères, que tu appelles de tes voeux, est-ce que cette remontée pourra se faire avec Jonathan David devant?
T'en sais du quoi, Thibaut?
Moi, je le vois encore généreux, courir, faire beaucoup d'efforts, mais être très très maladroit. T'en penses quoi, toi?
Oui, mais moi, je le trouve maladroit et je le trouve meilleur en 10. Alors, je vais juste te répondre à ça, mais je voulais juste rajouter à ce qu'avait dit Kevin. Pardonnez-moi. Mais j'ai trouvé aussi le pressing qui a beaucoup changé en première mi-temps. Le pressing était très mal fait de la part des Lillois, je trouvais. C'était bien fait devant, derrière, ça suivait pas, il y avait des trous. Et en deuxième mi-temps, c'est là que j'ai vu la grosse, grosse différence, c'est que le pressing était fait par tous les joueurs et il était très bien coordonné, et à la différence des Rennais. Ensuite, par rapport à ta question, moi, je trouve David bien meilleur en 10, en 9,5 quand il est avec un attaquant. Voilà. C'était son poste quand il était à la Gantoise. C'est comme ça qu'on l'a recruté. Il a dû se former à un nouveau poste, donc ce poste de numéro 9. Et c'est vrai que moi, je trouve meilleur quand il est libre, quand il peut bouger, quand il n'a pas de zone attribuée à ce joueur-là. Il est meilleur. Il est meilleur quand il est libre et quand il peut aller où il veut.
Oui. D'ailleurs, là, il était en pointe, hein, avec Angel Gomez derrière lui, qui fait pas son meilleur match non plus en 10. En fait, il y a peut-être là-dessus.
Ouais, mais il y a un débat en fait au niveau des supporters lillois, parce qu'il y a beaucoup qui disent que finalement Angel Gomez est peut-être meilleur en 8. Je sais pas si vous vous rappelez, au début de saison, on a commencé la saison avec Benjamin André et Angel Gomez, et Angel Gomez faisait ses meilleurs matchs. Et c'est vrai que moi aussi, je le trouve meilleur en 8. Le problème, c'est que derrière, t'as André Gomez. Là, on peut peut-être parler de son match, parce que c'est quelque chose. Moi, ça m'a rappelé son début de carrière à Valence. C'est que c'est ça, faut se rappeler quand même qu'André Gomez était un des plus gros cracks, je vais pas dire mondial, mais en tout cas c'était un sacré prospect quand il était à Valence, quand il part à Barcelone, c'était quand même un sacré joueur, et là on le retrouve petit à petit, et ça fait du bien, et quand il fait des matchs comme ça, on se dit qu'il a rien à faire à Lille. Et le problème, c'est
que... Ouais, après, bon, enfin, en fin de carrière, ou dans la dernière partie de sa carrière, avec un entraîneur qui le connaît, qui a la même nationalité pour encadrer des jeunes, honnêtement, c'était vraiment une énorme pioche. Et fallait aller chercher, parce que c'est vrai, quand on l'a vu ces dernières années, malheureusement, après sa grosse blessure avec Everton, il a eu beaucoup de mal à retrouver son niveau, ce qu'on peut comprendre. Mais il fait vraiment une bonne saison dans l'ensemble, et encore une fois, un gros match avec un but qui est quand même splendide.
Après, Thibaut, ça c'est mon appréciation personnelle, pour répondre à ta question d'un Lille complètement différent entre la première et la deuxième mi-temps, c'est-à-dire que première mi-temps, tu perds 1-0, t'arrives en deuxième mi-temps, à la limite, des fois, tu prends un but et ça te libère. T'as moins de pression et tu dis là, on n'a plus rien à perdre. Et on a trouvé j'ai trouvé des Lillois qui se laissaient beaucoup plus aller, qui tentaient, Kevin l'a dit, qui tentaient des choses qu'ils n'avaient pas tentées en première mi-temps. Et c'est quand tu tentes ces choses-là, sans te poser la question et avec même beaucoup plus de détermination, parce que tu te dis il faut absolument, je vais la mettre, ça va réussir et tout, parce que t'as plus rien à perdre quand t'es relâché comme ça, c'est là qu'arrivent les bonnes choses. Et c'est cette mentalité-là de deuxième mi-temps qu'il faut que les Lillois, c'est pour ça qu'on dit souvent, les victoires appellent les victoires, parce que quand t'es dans cet état d'esprit, eh ben t'as plus grand-chose qui t'échappe, tu tentes des trucs, en veux-tu, en voilà, tout réussit. Le plus compliqué, c'est de garder en tête la deuxième mi-temps et de recommencer le prochain match avec cette deuxième mi-temps en tête et puis que ça perdure. C'est ça le plus dur. Mais je trouve que la deuxième mi-temps, ils ont été vraiment libérés et c'est ce qui les a fait gagner ce soir.
Merci Dimitri en tout cas d'être passé ce soir dans l'after. Tu reviens quand tu veux.
Salut Dimitri.
Je peux juste passer un petit truc?
Bah avec plaisir, vas-y Dimitri.
Alors, on a un compte basé sur la Ligue 1 qui s'appelle Farmers League sur Twitter. Voilà, on a un space qui est prévu jeudi avec Franck Plaine, un préparateur physique de Troyes, qui va être tourné autour de la formation en France comparée à l'étranger et les spécificités de la formation quand on est dans un club du City Football Group. Ça serait génial d'avoir Kevin Diaz, si c'est possible que tu sois avec nous. Ça serait génial, on serait très contents.
C'est à quelle heure?
Bah, ça dépend si tu fais l'after, ouais, c'est ça le truc. C'est 21h30.
Ah non, 21h30, demain je suis à l'antenne, hein, désolé.
Non, c'est jeudi prochain.
Jeudi? Ah. Jeudi, faudra que je vois sur le planning.
Voilà, j'allais dire, faut vite trouver une autre excuse, mais du coup. Bah écoute, Dimitri.
Le soir, je t'avoue, Dimitri, que j'ai déjà pas mal d'activités entre mon équipe entraînée et l'after foot. Donc,
ouais. Et puis on embrasse aussi ta famille. Que,
exactement.
Tu n'as pas pensé, mais heureusement, je suis là. Voilà. Si jamais tu as une dispo, Dimitri, laisse tes coordonnées à Adri au standard et on voit ça après, ok?
Ça serait génial.
Salut Dimitri. Merci pour l'invitation.
Quand tu veux. Bye bye Dimitri. 23h09, vous êtes dans l'after avec Kevin Diaz, avec Lionel Charbonnier. 32-16 hein, pour réagir. Gros after ce soir. Supporters parisiens, toulousains. On vous attend au 32-16. On parlera également de l'OL qui s'est imposé 3-1 contre 3 aujourd'hui. On vous attend au 32-16. Attardons-nous. Ouvrons le dossier Rennais, messieurs, dames. Le stade Rennais qui menait donc 1-0 et qui s'incline. Écoutez, Lio et Kevin, les performances du stade Rennais post-Coupe du Monde. Reprise contre Reims, défaite. La semaine d'après, victoire contre Nice. Puis, défaite à Clermont. Puis, victoire face au PSG. Puis, défaite à Lorient. Victoire contre Strasbourg. Défaite ce soir contre Lille. Inconstance incroyable pour cette équipe. Et on a Anthony qui nous a appelé au 32-16 et qui, je crois, sort du Roizen Park, c'est ça? Salut Anthony.
C'est bien ça. Bonsoir tout le monde. Salut l'équipe.
Salut, bon, Anthony. Salut Anthony.
On va passer ta meilleure soirée au stade, toi.
Alors non, j'ai pas passé ma meilleure soirée, non.
T'as pas été voir le combat de Jonathan McCarty avant le match?
Non, j'ai pas été. J'aurais aimé voir un combat ce soir aussi, mais malheureusement, j'en ai pas vu un. J'ai vu un bon premier quart d'heure de l'équipe rennaise. Et après, je suis totalement d'accord avec ce que Lionel a mis en avant tout à l'heure, c'est que les Lillois ont tenté, ont su se reprendre, et ils méritent leur victoire amplement. Je pense qu'il n'y a pas. On n'a pas su les mettre en danger. Et j'écoutais Kevin juste avant qui disait également la même chose sur les Lillois. Une belle équipe de Lille. Jonathan David devant, c'est très très fort. Franchement, c'est très très fort. C'est un très bon joueur. Gomez aussi, il a fait un match. Pour moi, il a fait un match qui est super. Et les résultats sont comme l'équipe. On alterne le bon, le moins bon. Et il y a des attitudes, moi, que je trouve exécrables du côté du Stade Rennais vis-à-vis de certains joueurs, quoi.
Lesquels, par exemple?
Jérémy Doku, je vais encore le pointer du doigt, mais je suis désolé, on lui demande de jouer 30 minutes dans sa semaine, de se donner à fond 30 minutes. C'est pas suffisant. Quand je vois un Spence qui vient d'arriver, qui se met au diapason, qui fait 85 minutes de haut niveau, et je vois Jérémy Doku, qui est là, qui a 30 minutes, qui doit montrer des choses, parce que il doit l'y montrer. On lui donne du temps de jeu. Il n'y a pas de repli défensif. C'est fait au ralenti. Il n'y a pas de provocation. C'est compliqué. C'est compliqué, quoi. Et surtout qu'on a beaucoup d'absents. Donc, on a besoin de ces joueurs-là qui haussent leur niveau de jeu.
Donc, toi, tu soulignes la vue du stade ce soir. Presque un problème, finalement, un peu d'état d'esprit, c'est ça? C'est-à-dire que le stade Rennais qui met de l'intensité, du pressing depuis le début de la saison, tu le retrouves moins en ce moment?
Je l'ai moins retrouvé. Après, je suis aussi conscient.
Tu l'as retrouvé quand même dans les 20-25 premières minutes quand même.
On fait une bonne entame et après, je pense qu'on a été aussi mis en difficulté par les Lillois, mais on ouvre le score très tôt, 23 secondes de jeu, et derrière, on a une ou deux occasions, on tue pas le match et on baisse son intensité.
C'est ce que je disais, Anthony, pendant le match. Moi, aujourd'hui, même s'il a de très bonnes stats, je suis un tout petit peu déçu, sans être sévère, par Amine Gouiri. Parce que Amine Gouiri, c'est quelqu'un en qui on a mis énormément d'espoir, hein, qui a montré de très très grandes choses, notamment dans son premier passage, dans sa première période avec Nice, notamment. Mais aujourd'hui, il a l'occasion de tuer le match, tu vois, sur cette balle où il frappe un peu sur le gardien. Bon, il y a une bonne sortie de chevalier, ok. Mais malheureusement, au très haut niveau, Lionel le sait encore mieux que nous, mais au très haut niveau, c'est des détails, c'est des moments clés dans le match. Et là, tu mets le 2-0, et Lille, tu leur mets la tête sous l'eau. Peut-être que derrière, tu leur mets un troisième. Mais à partir du moment où tu laisses ce genre d'équipe en vie,
est-ce que tu crois que
c'est là où t'attends le Balotelli n'est plus là, mais c'est là où t'attends Bourigeaud, où t'attends Gouiri, qui sont quand même les deux leaders d'attaque aujourd'hui. C'est là qu'il faut marquer le deuxième but quand t'en as l'occasion.
C'est ça, Kevin. Mais c'est là où je mets un petit peu le bémol et j'avertis tout le temps les gens là-dessus. C'est-à-dire que je pense que Amine Gouiri, dans sa tête, ce n'est pas un buteur. C'est un mec qui est capable d'avoir des stats extraordinaires, de marquer des buts à partir du moment où il est détaché de cette mission de cette pression d'être buteur. Un buteur, ça réfléchit pas. Un buteur, ça marque des buts. Un Gouiri, il se met à réfléchir quand le buteur n'est plus là. Parce que si le buteur n'est plus là, il se dit, oh là là, faut pas que je rate la balle. Faut pas que je rate le but parce que le buteur, il est pas là. Et quand tu penses qu'il faut pas rater le but, tout d'un coup, le mec, il se met à rater les buts. Et ces joueurs-là ne sont pas des buteurs. Ce sont des très bons joueurs à partir du moment où ils ont une complémentarité à côté, un joueur complémentaire et notamment un buteur. Et aujourd'hui, il s'est investi, on lui a donné ce rôle de buteur qui n'est pas c'est pas dans son ADN. Et ça m'étonne pas, personnellement, ça ne m'étonne pas qu'il soit en dedans de ce qu'on pourrait penser nous, mais personnellement, moi, je ne lui en veux pas parce que ce n'est pas du tout son rôle.
Anthony, tu lui en veux pas non plus?
Je rejoins qu'à moitié Lionel, c'est-à-dire que Amine Gouiri, pour moi, c'est un attaquant, c'est un mec qui doit marquer des buts. Là où je suis d'accord avec Lionel, c'est que peut-être que le poids de buteur numéro 1 est trop lourd à porter pour lui, peut-être, je peux le comprendre. Je pense aussi qu'il est meilleur quand il a un autre attaquant avec lui.
Exactement.
On l'avait.
Et notamment un mec sur lequel il peut s'appuyer, un mec qui va prendre cette pression de mettre ses buts là.
C'était Désiré Doué ce soir qui n'est pas ce profil là, évidemment.
Ben non.
C'est tu sens presque, enfin, c'est vu du stade, t'as presque l'impression que par moment il est scellé, il fait pas le geste juste parce que justement il n'y a pas cette recherche de points d'appui où voilà, Kalimuendo a du mal à se montrer. On a perdu Martin Terrier avec qui justement ça fonctionnait très bien. Et maintenant que Martin Terrier est blessé, Kalimuendo a été blessé, il a ce rôle de buteur numéro 1. Je mets quand même pas mal d'espoir sur Kato Koekambi. Je suis content de le voir revenir là. Ça fait deux matchs. Pour moi, il fait deux bonnes prestations. Et je suis content parce qu'ils l'ont un petit peu tué à Lyon facilement. Moi, j'ai toujours trouvé que ce joueur-là était un bon joueur. Et je suis content de le voir prendre du temps de jeu chez nous et retrouver son niveau.
Ouais, alors là, pour le coup, là, moi, je te trouve un peu gentil avec Toko Ekambi. On n'a pas vu grand-chose là.
Ouais, tu vas pas reprocher à un supporter d'être gentil pour une fois avec Karl Toko Ekambi.
Non,
attention, il vient d'arriver.
D'accord, mais dans l'analyse de ces matchs, on va pas prendre en compte son passé. Ça a été compliqué.
Non, mais là, disons que le problème ce soir, c'est pas Karl Toko Ekambi.
Non, bien sûr.
Le souci, c'est un souci qui est collectif. Moi, j'ai envie de parler d'un joueur, si on peut parler des joueurs qui se sont quand même démarqués, c'est Spence. Franchement, bien sûr, on l'avait entreaperçu avec Tottenham, mais on découvre quand même ce soir vraiment ses qualités sur une plus longue période. Ce qu'il a apporté, honnêtement, c'est excellent dans la grande lignée des latéraux anglais qui, sur les 10 dernières années, sont clairement les meilleurs dans la formation de ce poste qui est un peu en difficulté sur le plan européen, voire mondial. Mais vraiment, eux, ils arrivent à former des latéraux, des joueurs rapides, des joueurs techniques, comme disait Thibaut pendant le match. Et franchement, il a montré de bonnes choses. Après, il y a toujours Arthur Théâtre, il y a Mandanda qui fait 2-3 arrêts importants. Mais c'est vrai que Santa Maria qui revient aussi plutôt bien. Maintenant, on n'a pas vu un grand Bourigeaud ce soir. Et Rennes aura besoin d'un grand Bourigeaud en l'absence de Martin Terrier jusqu'à la fin de saison.
Ouais, c'est le souci. C'est le souci de Rennes parce que on se rappelle en début de saison quand il y avait ni Bourigeaud ni Terrier qui n'arrivait pas à faire des grands matchs. Rennes était moribond en début de saison, et puis tout d'un coup Terrier est revenu, Bourigeaud a suivi derrière et on a trouvé un grand Rennes. Là Terrier n'est plus là et Bourigeaud se perd, et on retrouve le Rennes un petit peu du début de saison qui chahutait son football.
Rennes qui rejouera contre Toulouse dimanche prochain, dans une semaine, déplacement à Toulouse. Et puis il y aura ensuite le retour de la Ligue Europa le jeudi 16 février, exactement. Déplacement face au Shakhtar Donetsk. Merci Anthony, t'es bientôt rentré à la maison, t'es Rennais?
Oh non, j'ai encore une bonne heure de route, je rentre sur l'Orient.
Ah ok, bah alors t'es... Ah oui, l'ancien stade de la route de l'Orient, t'étais bien toi?
Je vis à côté de Lorient, donc j'ai une bonne heure à écart pour venir au Rosen Park à chaque fois que je viens au match.
Bon, bah bon retour.
Rentre bien.
Ouais, je n'ai pas réponse à cela. Je vais vous écouter tout le long de la route.
Salut Anthony.
Fais gaffe, t'as Siri qui te parle.
Ouais,
t'as entendu maman, Lionel.
La bise à Siri. Elle tiendra compagnie. Salut Anthony, bon retour.
Salut, tu rappelles comme tu veux.
Salut Anthony.
Salut Anthony. Tu sais, Thibaut, juste vite fait pour t'expliquer, parce que ce que je t'ai dit tout à l'heure sur Guiri, par exemple, je l'ai vécu. J'ai eu un président qui m'a dit, écoute, t'as un ailier gauche qui a marqué 11 buts. T'as un ailier droit qui a marqué 9 buts. Le total des deux faisait 20 buts, à la saison. Il me dit, on est à la moitié de saison, ces deux joueurs-là devraient nous amener 10 buts. Quand je fais le total, il me dit, oui, mais regarde, on en est qu'à 6. Ils sont vachement moins bons que ce qu'ils avaient avant. Et je lui dis, attends. J'ai dit, quand ils ont marqué 11 buts et 9 buts, ils avaient devant eux, ces deux joueurs-là, ils avaient un attaquant qui marquait 22 buts par saison. Notre attaquant cette année, il n'a pas marqué de but. Il est parti, on l'a perdu et on n'a plus d'attaquant. Et tu demandes à ces joueurs-là de marquer des buts. Et dès qu'on a retrouvé un attaquant, tout de suite l'attaquant il a marqué des buts. Qu'est-ce qu'on fait les autres? Ils ont enquillé derrière et ils sont retombés dans leur stat.
Donc faut qu'il
c'est un exemple concret.
C'était Guivarch.
C'est ça le on a eu Guivarch, on a eu tout ça. Moi c'est quand j'entraînais, c'était mon président qui me disait ça. Il me dit on est en dessous des stats et tout. J'ai dit non, les stats on va les retrouver à partir du moment où ils auront un attaquant qui les libérera de cette pression de marquer des buts, parce que un marqueur de but, un gardien de but et un buteur, ce sont deux mecs essentiels avec des mentalités complètement différentes des autres joueurs.
Merci Lio pour l'explication, l'expérience de Lionel Charbonnier.
Non, des fois tout le monde comprend pas ça. Il y a beaucoup de gens qui sont cartésiens, mais le football c'est pas très cartésien malheureusement.